France Culture.
La traditionnelle Fashion Week de Milan démarre aujourd'hui et cette année, le rendez-vous haute couture prend une tournure particulièrement symbolique. On y retrouve bien sûr de vénérables institutions italiennes comme la romaine Fendi qui fête son centenaire, mais aussi les milanaises Dolce Gabbana ou Prada qui en 2023 a fêté ses 110 ans. Bref, des symboles de la longévité de l'industrie lombarde, mais qui sont aujourd'hui confrontés à des circonstances économiques particulièrement préoccupantes. Le secteur de la mode italienne est cette année en baisse de 5,3% par rapport à 2023 et même de 8,1% pour le secteur du cuir, de la maroquinerie et des chaussures. Milan, capitale de la Lombardie, est donc le théâtre de réjouissances en demi-teinte et qui en disent long sur l'état plus général de l'industrie italienne, car le secteur de la mode n'est pas le seul touché et le secteur automobile a lui aussi reculé, mais cette fois de 26,1% entre juillet 2023 et juillet 2024. Impossible de ne pas voir un lien entre l'entrée en récession de l'Allemagne qui a connu un recul de son PIB de 0,3% en 2023, puis de 0,2% en 2024, et qui constitue jusqu'ici un marché de choix pour les marchandises produites par tout un réseau de petites et moyennes entreprises de sous-traitance. Or, c'est précisément ce tissu industriel qui a fait la force de la Lombardie, à tel point que la région représente à elle seule environ un quart du PIB italien pour 17% de la population italienne, et elle a longtemps, très longtemps, fait figure de moteur économique pour tout le pays. Alors forcément, quand les débouchés viennent à manquer, c'est toute une région qui voit des décennies de capitalisme industriel et familial remis en question. Et c'est tout un pays qui accuse le coup. Depuis deux semestres maintenant, l'Italie connaît une croissance de 0%. C'est donc en Lombardie que se rend aujourd'hui Entendez-vous l'écho, dans cette émission programmée et préparée par Valentin Grille, réalisée par Cassandre Puel et mise en onde aujourd'hui par Alex Dang. Et trois invités sont avec nous aujourd'hui. Andrea Goldstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et vous avez d'ailleurs enseigné l'économie des réformes, entre autres à Sciences Po jusqu'à récemment. Linda De Matteo, vous êtes également avec nous en studio. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue chargée de recherche au laboratoire d'anthropologie politique et qui est affiliée au CNRS et à l'EHESS où vous enseignez en études politiques. Et enfin, avec nous à distance depuis Florence, Luciano Segreto, vous êtes historien, professeur d'histoire économique et d'histoire de l'entreprise à l'Université de Florence. Bonjour et bienvenue si vous nous entendez depuis Florence. Andrea, bonjour, c'est une bonne chose, on vous entend.
On vous entend très bien.
Bon, c'est parfait, Luciano Segreto, c'est parfait. Andrea Goldstein, on vient de dresser un tableau plutôt sombre de l'état de l'économie italienne. Alors pour comprendre ces vulnérabilités dans le contexte actuel, il faut avant tout se pencher sur la structure de cette industrie qui ne va pas forcément extrêmement bien, on l'a compris aujourd'hui. L'industrie manufacturière italienne pèse entre 16 et 18% du PIB, selon les chiffres qui varient, contre moins de 10% en France, clairement. On peut dire que c'est cette industrie manufacturière qui fait la force de l'Italie aujourd'hui.
Oui, il n'y a pas de doute que l'industrie italienne se porte très faible dans la conjoncture actuelle. Ça, c'est dû, comme vous l'avez évoqué, à la fois à la crise de l'économie allemande qui a une croissance très atone. Et on sait qu'une partie importante des exportations de la Lombardie, mais de l'Italie en général, va vers l'Allemagne pour fournir des biens d'équipement aux entreprises allemandes. Donc il y a une partie de la demande qui est finale, qui va vers les consommateurs qui souffrent en Allemagne. Mais il y a une partie importante qui va dans des voitures, par exemple. On sait, l'ancien ministre de l'économie, Giulio Tremonti, aimait dire qu'un tiers de la valeur ajoutée dans une Mercedes ou dans une Porsche venait d'Italie. On peut penser, par exemple, dans les cas de système de freinage à Brembo, c'est une entreprise de Bergame, donc une entreprise lombarde, qui est fournisseur à la fois de grandes entreprises, de grandes marques de voitures assez performantes en Allemagne, mais aussi de toutes les scuderies de Formule 1. Donc c'est un exemple de cette particularité italienne d'être très spécialisée dans les biens d'équipement.
Donc on voit que ce qui fait sa force, finalement l'industrie manufacturière fait aussi sa faiblesse, sa vulnérabilité lorsque des crises adviennent, comme c'est le cas pour l'Allemagne aujourd'hui, et qui de fait par un effet de domino se répercute sur des régions qui se sont spécialisées dans des biens industriels dont a besoin l'Allemagne, et c'est le cas de la Lombardie. On l'a dit, Luciano Segreto, c'est un tableau plutôt sombre, et pourtant il faut quand même noter que cette production industrielle s'exporte, et s'exporte plutôt bien. Les exportations de biens en Italie se sont élevées à 622 milliards d'euros en 2023, contre seulement 599 milliards d'euros pour la France. De fait, l'Italie dégage bien un excédent commercial supérieur à 2,5% du PIB. Et on apprenait début septembre 2024 que pour la première fois, les exportations italiennes ont dépassé celles du Japon. Comment expliquer un tel dynamisme, alors même qu'on vient de dresser un contexte qui n'est pas forcément très, très porteur?
Les difficultés, je dis, de l'exportation italienne, disons surtout vers l'Allemagne, ont été compensées largement par des résultats meilleurs dans beaucoup d'aires, disons, de zones, surtout extra-européennes, je dirais, parce que en effet, l'Allemagne, qui représente autour de 70 milliards, donc vous avez dit bien, plus que 600 était le résultat final de l'année passée, 70 milliards sont, c'est la portion de l'Allemagne, c'est un peu plus que 10%, qui a reculé par rapport à l'année précédente de 3,7%. Mais le résultat de l'ensemble de l'exportation italienne a pratiquement atteint le même résultat de 23, avec un 0,4 en moins. Donc ça veut dire que la résilience, disons, capacité de résilience du système industriel, et je parle pas de la Lombardie, je parle en général, a permis de compenser plutôt bien les difficultés qui se sont présentées, comme l'a dit bien aussi André Goldstein, avec l'Allemagne, avec secteur en particulier dans lequel l'Italie coopère de manière structurelle avec l'industrie automobile allemande. Donc, un paysage un peu avec beaucoup de nuances, si on peut dire comme ça, entre les aspects plus positifs et les aspects relativement plus négatifs. Par exemple, je disais plus positif, c'est l'Asie en général, tous les pays de l'ASEAN qui ont grandi de 10% dans les exportations italiennes. Donc ça veut dire que il y a une capacité d'arriver beaucoup plus loin, si on peut dire métaphoriquement et aussi géographiquement, avec les produits du Made in Italy. Donc quand on parle d'Italie, il faut toujours avoir cette capacité de voir le bleu, le noir et le blanc, le clair et le plus foncé.
Donc c'est donc un tableau tout en nuances de la santé économique italienne. On l'a compris, tout dépend où se place la focale, si on regarde le partenaire commercial le plus proche et le plus important aussi, à savoir l'Allemagne, ou si l'on regarde plus loin et de fait en direction de l'Asie. Dans ce contexte plus général, Linda De Matteo, quelle place occupe la Lombardie qui va nous occuper tout au long de cette émission? Alors, je le rappelle, l'Italie qui est située tout au nord du pays, et donc au sud de la Suisse, qui est coincée entre le Piémont à l'est et la Vénétie et le Trentin à l'ouest. Est-ce que c'est une région qui, dans ce contexte-là, où on a compris que l'Italie pouvait se fier à sa production manufacturière tout en ayant une forme de vulnérabilité vis-à-vis des exportations, est-ce que la Lombardie, finalement, est un symbole aussi de ses forces et de ses faiblesses-là à elle toute seule?
C'est une question difficile. Moi, je serais un peu de l'avis de Luciano Segreto, c'est-à-dire que l'Italie et la Lombardie en particulier ont des capacités de résilience qui sont impressionnantes. Elle est effectivement très tournée vers le marché allemand, donc très dépendante des chaînes de production qui la lient à l'Allemagne, notamment pour tout ce qui concerne la mécanique. Mais ces dernières années, elle a essayé aussi de développer ses réseaux avec l'Asie. Elle est aussi très très liée à la Chine, aussi bien pour la mécanique que pour le textile, sur lequel moi je travaille plus spécifiquement. Et moi, j'ai observé en fait des grands industriels de la région de Lombardie se tourner vers le marché chinois, essayer de rentrer sur ce marché chinois pour essayer de vendre leurs tissus, qui sont des tissus précieux, à des jeunes stylistes chinois qui essaient de développer des nouvelles marques sur ce marché. Parce que les choses sont en train de se recomposer complètement. En réalité, on est dans une phase de transition. Compte tenu de l'essor de la Chine, aujourd'hui la Chine ne fabrique plus uniquement des vêtements bas de gamme, loin de là, et essaye de développer des entreprises qui sont tournées vers leur propre marché et aussi des entreprises tournées vers le haut de gamme et vers le luxe. Donc, dans cette configuration, ils ont également besoin des Italiens qui produisent des tissus ou des produits de haute qualité. Donc, les choses sont en train de se reconfigurer en réalité.
Et on va voir comment aussi les industries lombardes, entre autres, ont tenté et ont réussi, on peut le dire, à mettre en place cette montée en gamme, à se sortir, on va dire, aussi du lot de cette façon. On l'a compris, c'est l'Asie qui est en ligne d'horizon aussi pour les exportations italiennes. C'est ce que semble avoir bien compris Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien. Le 29 juillet 2024, elle était en Chine en visite à Xi Jinping et elle n'a pas caché son intention de renforcer les liens avec la puissance chinoise.
Chiaramente, mantenere quel canale che è stato appunto iniziato proprio 700 anni fa da Marco Polo.
Il nous faut maintenir ouvert le canal inauguré il y a exactement 700 ans par Marco Polo afin de promouvoir les relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques, mais aussi maintenir le dialogue au niveau multilatéral à une époque aussi complexe que celle dans laquelle nous vivons, car le monde qui nous entoure est sur le point de changer. Le système international tel qu'il est actuellement encadré est remis en question. Et il y a déjà de nouvelles technologies qui changent la donne et peuvent avoir des conséquences incroyables sur nos sociétés. Je pense à l'intelligence artificielle, qui peuvent déjà modifier non seulement les façons de produire, mais aussi le marché du travail. Il règne d'ores et déjà une forte insécurité au niveau international, et je pense que la Chine est un interlocuteur très important pour affronter toutes ces dynamiques, en respectant tous les points de vue, pour assurer la stabilité, garantir la paix, garantir que nos échanges puissent rester libres. Pour cela, nous avons avant tout besoin que le système de règles dans lequel nous évoluons reste stable, et je vous remercie de nous offrir cette possibilité. Avec ce voyage, nous lançons un plan d'action triennal que nous avons signé avec le gouvernement, qui a défini les trois prochaines années de notre coopération bilatérale, avec l'objectif clair de renforcer le travail que nous avons déjà accompli, mais aussi d'explorer de nouvelles formes de coopération. En travaillant ensemble, il est possible d'équilibrer les relations commerciales. Et je pense que l'Italie peut jouer un rôle important dans les relations avec l'Union européenne en créant des relations commerciales aussi équilibrées que possible.
Et anche qui il tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati. Grazie davvero per questa opportunità, Presidente.
Andrea Goldstein, on peut dire que explorer de nouvelles formes de collaboration, comme l'a dit Giorgia Meloni, trouver de nouveaux partenaires ou renforcer des liens qui existent déjà, et notamment avec la Chine, c'est une façon de se dégager de la trop forte dépendance vis-à-vis de l'Allemagne. C'est ça désormais la stratégie industrielle qui prévaut en Italie.
Oui, sans doute la découverte, disons, tardive par rapport à la France et à l'Allemagne, mais assez vigoureuse du marché chinois, c'est une chose qui caractérise l'industrie italienne et lombarde surtout. Alors, il y a de différentes formes. Au-delà des exportations, il y a bien sûr des investissements faits par les multinationales lombardes, qui sont en général des tailles petites et moyennes par rapport aux grandes multinationales dont on parle, qu'on a à l'esprit, des américaines ou les allemands, mais qui sont assez dynamiques et aussi assez capable d'exploiter des créneaux de marché qui peut-être d'autres entreprises ne regardent pas avec autant d'intérêt. Il y a beaucoup de collaborations dans le domaine de l'innovation. D'abord, l'École Polytechnique de Milan, qui est l'une des meilleures écoles d'ingénieurs et d'architectes en Europe, a des relations très étroites avec des universités en Chine. C'est le cas aussi de la Bocconi, de l'École de commerce de Milan. Donc il y a pour ce qui est l'innovation et la formation, il y a des collaborations étroites. Et il faut dire que aussi la première ministre a été très active par rapport au passé. Elle s'est rendue déjà plusieurs fois, je crois, à Pékin et aussi à Shanghai. Donc tout cela témoigne d'un intérêt et d'une stratégie que l'Italie a. Bien sûr, la stratégie, que ce soit de la Lombardie, que ce soit de l'Italie, ne peut pas aboutir à de grands résultats si ce n'est pas partie d'une stratégie européenne. Ça, on a à l'esprit aussi d'autres régions du monde dans lesquelles tout cela se passe. Il y a aussi un autre phénomène, ce sont les entreprises chinoises qui investissent en Lombardie. On a des exemples, par exemple, dans les biens d'équipement, dans l'électroménager. Donc, Certaines de ces expériences ont été positives, d'autres moins. Après, c'est difficile de savoir si les mauvaises expériences sont dues au marché, aux circonstances ou au fait qu'un investisseur était chinois et en Italie. Mais donc, il y a un panoplie de stratégies et d'outils, des politiques publiques et d'actions privées mises en place.
Et on voit donc que les liens sont renforcés, en tout cas que l'action va dans ce sens-là, ouais. À la fois du côté italien, puis de ses partenaires commerciaux. Cela dit, alors je voudrais juste poser la question à Linda De Matteo. On parlait de la très forte volonté gouvernementale, notamment exprimée par Giorgia Meloni. Elle avait annoncé un plan de 40 milliards d'euros pour soutenir la présence à l'étranger et la croissance des entreprises italiennes en marge du G20 au Brésil. Politiquement, aujourd'hui, et notamment face à ce tableau qu'on est en train de dresser d'une industrie peut-être un peu à la peine, ou en tout cas qui voit ses liens avec l'Allemagne menacer aussi sa santé économique, aujourd'hui c'est un sujet politique, la santé de l'industrie. Politiquement, Giorgia Meloni, elle n'a pas tellement d'autre choix que de se préoccuper de l'industrie. Ça devient un sujet brûlant, Linda De Matteo.
Oui, mais je pense que ça a toujours été crucial pour l'Italie. L'Italie, c'est un pays qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le miracle italien, est un pays qui est très extraverti, qui a tout misé sur l'exportation, donc ce qui en fait un des pays qui exporte le plus aujourd'hui en Europe. La Lombardie est une région industrielle. Je pense que c'est une des plus fortes concentrations d'établissements industriels en Europe. Donc elle est très dépendante en fait des flux commerciaux. Et actuellement, il y a beaucoup d'angoisse à l'égard de la politique de Donald Trump et de sa manière d'opérer, c'est-à-dire de créer ses relations bilatérales et de faire pression sur les partenaires européens de manière individuelle. Donc les Italiens aujourd'hui, les entrepreneurs italiens se félicitent du fait que Giorgia Meloni a plutôt un bon rapport avec Donald Trump, mais il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui face à cette situation.
Et du reste, les États-Unis sont un marché de choix aussi pour l'Italie, c'est un partenaire commercial dont on pense difficilement pouvoir se passer pour les industries italiennes. Luciano Segreto, on a parlé finalement des alternatives qui existaient, de l'horizon qui se dessine pour l'Italie. Il faut quand même rappeler une chose très importante, c'est ce lien qui l'unit à l'Allemagne et plus spécifiquement en Lombardie. Alors il faut recentrer ce discours autour de la Lombardie et bien comprendre pourquoi, dès lors que l'Allemagne s'enrhume, on va dire, dès lors qu'il y a effectivement récession en Allemagne, pourquoi c'est la Lombardie et puis l'Italie de fait derrière qui en subit quelque part les conséquences. L'équivalent du MEDEF en Italie, le Confindustria, a estimé que la baisse des exportations depuis la Lombardie vers l'Allemagne ont chuté de 8,4% en 2023, puis de 6% au premier semestre 2024. Très concrètement, Luciano Segreto, qu'est-ce qu'on produit en Lombardie? Et parmi cette production, quel secteur est touché par la baisse des exportations vers l'Allemagne?
Donc, les secteurs plus importants sont traditionnellement la mécanique en général, mais un peu plus en particulier, il faut ajouter aussi des secteurs qui sont relativement plus avancés sur le plan technologique, parce que il y a aussi production d'ordinateurs, d'appareils électroniques, et la chimie, qui a joué un rôle très important dans les résultats de l'année passée, avec un plus 5,5, les produits alimentaires, les moyens de transport en général. Par contre, vous l'avez dit bien au début de votre introduction générale, les secteurs plus frappés négativement étaient les secteurs plus traditionnels, qu'on peut dire génériquement liés à la mode, à la grande mode italienne, au grand nom de la mode italienne. Vous avez bien parlé de Prada, de Armani. Et effectivement, tout le secteur textile, mode et le cuir ont presque 9% en moins. Donc, il y a une articulation plutôt évidente. La chose que je voudrais mettre en évidence, quand on parle de relations avec l'Allemagne, et d'un côté, et par exemple les succès vers les nouveaux types de succès vers l'Asie, c'est que la structure industrielle, technologique italienne est faite, je dirais, même sur mesure pour apporter ce que justement André Agostin disait, la valeur ajoutée en faisant une citation de Tremonti au secteur automobile allemand. Mais dans le sens que on produit en particulier des pièces très importantes parfois stratégiques dans une voiture, dans un moteur ou le système freinage par exemple, qui a en Italie la plus grande entreprise à niveau international pour toutes les grandes entreprises de automobiles, pas seulement les entreprises allemandes. Mais donc on produit de manière je dirais subordonnée, mais pas dans le sens négatif, dans le sens que on produit des pièces, des composantes qui sont stratégiques. De l'autre côté, les succès ou la capacité de résilience vers d'autres zones géographiques a été basée sur la capacité de produire des produits finis, donc complets. C'est ça la grande différence, je dirais, qui met en évidence indirectement ces chiffres, ces statistiques qui sont sorties il y a la semaine passée, il y a une dizaine de jours. Donc la capacité de résilience met en évidence aussi la capacité des secteurs manufacturiers plus capables d'offrir un produit final complet. Les difficultés majeures sont dans les secteurs qui contribuent à la production d'un produit fini. L'Allemagne, c'est le cas meilleur, mais c'est pas le seul cas. Donc nous, on produit aussi des parts, des composantes aussi pour l'industrie française, par exemple, ou anglaise, ou américaine. Mais c'est ça la différence la capacité de produire un produit fini, complet, qui arrive directement au consommateur, et la production des biens. Qui seront des biens intermédiaires.
Luciano Segreto, ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, c'est que finalement, à travers ce terme de sous-traitant, parce que finalement, c'est ça la relation qui unit aussi, et notamment les industries lombardes à l'Allemagne, derrière ce terme de sous-traitant, il ne faudrait pas y voir une simple façon de déléguer une production un peu peu importe où. Il y a une vraie spécificité du savoir-faire de la fabrication italienne qui apporte une part de valeur ajoutée aux produits finis. C'est ce que vous nous dites. Donc on le comprend, le tissu industriel et notamment lombard ne produit pas n'importe quoi pour n'importe qui. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs en 2024 un responsable de la production de l'usine Brembo spécialisée, on le disait à l'instant avec Monsieur Goldstein, dans le freinage à Bergame, une province qui est située de fait au cœur de la Lombardie.
Vous voyez ici un exemple du matériau original tel que nous le recevons de notre fournisseur. Il s'agit d'un alliage d'aluminium. C'est un petit peu différent de la Formule 1 à cause de la réglementation. Il y a certains composants qui ne sont pas autorisés en MotoGP. Ainsi, à droite et à gauche, l'opération d'usinage a impliqué différentes machines. Il n'est pas possible d'usiner toutes les pièces en une seule fois. L'une des spécificités que nous développons chez Brembo et l'usinage de l'étrier. L'un des aspects les plus délicats est celui de la rainure pour les joints des pistons, car elle est interne et surtout très importante pour les performances de l'étrier. C'est pourquoi nous avons développé avec notre fournisseur une machine spécifique. Si vous travaillez avec du carbone ou de l'acier, cette rainure aura des géométries différentes.
Ce qu'on entendait dans ce témoignage issu d'un extrait d'un reportage de Moto Magazine, c'est rare quand Entendez-vous l'écho, on passe des extraits de Moto Magazine, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc ce témoignage du 12 septembre 2024, on comprend qu'il y a une véritable valeur ajoutée donc dans ce que produisent les industries lombardes. En l'occurrence, c'est ce système de freinage qui est propre à cette usine de Brembo. La question se pose, Andrea Goldstein, dès lors qu'il faut adapter justement tous ces modèles, faire bien ce qu'on sait déjà faire, c'est très bien, mais lorsqu'il faut tout changer, et je parle évidemment là du passage aux véhicules électriques et la fin de la mise en vente des véhicules à moteur thermique prévue d'ici 2035, est-ce que l'Italie, là encore, n'est pas dans une forme de difficulté? Est-ce qu'elle sait s'adapter? Est-ce qu'elle peut s'adapter à ce très grand changement?
Il y a une capacité de se montrer flexible face aux défis qui est assez italienne, disons. D'ailleurs, je crois que l'ingénieur qui vient d'être interviewé, il devait venir de l'Europe de l'Est par son accent. Et ça démontre, c'est une preuve du fait que Brembo s'est aussi délocalisé parce qu'il a dû suivre les donneurs d'ordre, donc les Mercedes et autres Volkswagen qui ont ouvert des usines en Europe de l'Est. Et donc Brembo aussi s'est mondialisé, internationalisé de ce point de vue. Et en termes de capacité de, comme le disait Luciano Segreto, cette capacité de trouver des solutions à des problèmes peut-être mineurs, peut-être très spéciales, mais qui fait la force de l'industrie italienne. On a un exemple, c'est Groupion, c'est une petite entreprise de la proche banlieue de Milan. Une entreprise qui a presque 70 ans de vie et qui fait encore 20 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est rien comparé. On peut imaginer que Tesla faisait 20 millions dans une heure quand elle avait 2-3 ans d'existence. Mais Groupion, par contre, contrôle un pourcentage très élevé du marché mondial des vitrines pour les musées. D'ailleurs, à Paris, au Louvre, à la Maison de la Monnaie, au musée de Saint-Laurent, toutes les vitrines sont connectées, très spécialisées, très sûres. Bien sûr, c'est l'objectif. Et cette entreprise contrôle une partie très importante de ce marché. Donc, cette entreprise qui a été créée par un ouvrier d'une entreprise qui fournissait Ferrero, de système d'exposition de ces chocolats, et qui a créé son propre entreprise, une entreprise qui dégage des marges énormes, et qui est toujours appelé à faire, d'ailleurs, ça vient d'ouvrir la Biennale de Jeddah d'art, et ça aussi, c'est un endroit dans lequel toutes les vitrines sont produites par Groupion. Donc, c'est un exemple de cette flexibilité, capacité de suivre les ordres de l'entreprise leader, mais aussi capacité d'innover.
Ce qu'on comprend, Andrea Goldstein, grâce à ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a à la fois cette idée que les entreprises italiennes, à un moment donné, ont elles-mêmes délocalisé, ce qui fait que les donneurs d'ordre, de fait, vont aussi s'adresser à des entreprises dans des zones où elles ont délocalisé, mais qu'il y a toujours ce savoir-faire, cette spécificité et cette capacité d'adaptation. Ce qui m'amène à une autre question, Luciano Segreto, qui est un petit peu fondamentale aussi dans cette discussion, c'est de savoir dans quelle mesure la crise dont on parle vis-à-vis notamment de l'Allemagne est conjoncturelle ou structurelle. On apprenait ce matin par l'Association des constructeurs européens d'automobiles que les immatriculations de voitures hybrides neuves ont redépassé celles des véhicules qui utilisaient l'essence au mois de janvier 2025, et surtout que la production de véhicules électriques a augmenté en Italie de 126%. On pourrait se dire que voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation, mais que l'Italie est de nouveau sur les rails et qu'elle va pouvoir embrayer, si j'ose dire, et s'inscrire aussi dans ce changement industriel qu'est le passage à l'électrique, et que donc potentiellement cette crise ne va pas durer. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut voir les choses selon vous, Luciano Segreto ?
J'aimerais vous croire, parce que j'ai un peu la sensation que votre présentation est un peu, légèrement optimiste. Malheureusement, parce que en tant que professeur d'histoire d'entreprise à la Bocconi, je dois être aussi, plutôt rationnel et voir la partie plus compliquée, plus difficile de la réalité. Difficile et donc légèrement plus négative. Dans le sens que ce que vous venez de dire montre, encore une fois, ce que André Goldstein disait, la capacité de réagir. Mais la capacité de réagir dans la brève période, dans le court terme, est quelque chose d'important, mais qui ne donne pas la sécurité que dans la longue période, on est capable de continuer. De l'autre côté, ce sont les volumes de production qui font la vraie différence. Donc, la résilience est une chose très importante. La capacité structurelle, stratégique de résister et continuer dans la croissance est quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on a plein d'exemples. Ce que André Goldstein a proposé sont magnifiques. On a plein d'exemples comme ça, mais qui ne donnent pas la sensation que nous sommes les protagonistes. Ou bien, nous le sommes dans des secteurs de niche. Et c'est pas une chose négative, hein. C'est une constatation, je dirais, extrêmement positive, mais c'est une constatation qui dit, en même temps, les aspects positifs et les aspects plus négatif, qu'on peut pas cacher. C'est-à-dire que nous sommes des génies dans la capacité de produire quelque chose de nouveau, quelque chose de très bien, de beau, qui est parfait, qui s'introduit parfaitement dans un produit plus grand. On est capable de coprojecter avec un grand producteur, Siemens, par exemple. Mais on n'est pas capable de produire ce que Siemens produit, qui est un système. C'est ça la grande différence. Moi, j'avais fait une grande recherche, pas sur la Lombardie, mais pas trop loin, sur les industriels de la région Émilie, c'est-à-dire les zones entre Reggio Emilia, Modena. Un exemple magnifique, une entreprise qui produit des vis, les vis plus importants pour le moteur. Il me disait, nous avons fait des travaux de recherche impressionnantes pour arriver à offrir aux producteurs chinois des systèmes de vis qui sont ils s'appellent les vis prisonniers qui sont, c'est-à-dire qui marchent de deux côtés, hein, pour les moteurs. Et pour réaliser ça, nous a pris des années pour réduire le prix de 55 à 50 centimes la pièce. Et puis, le monsieur qui était le producteur, l'entrepreneur, me dit, et puis j'arrive à l'aéroport de Shanghai. Et je me rends compte que l'aéroport de Shanghai était coprojeté par les grandes entreprises allemandes et françaises. Voilà la différence. Mmh. Voilà la différence entre des systèmes industriels qui sont capables de faire des grands projets, de grandes réalisations, et un autre système industriel qui est capable de produire magnifiquement de petites pièces stratégiques, importantes, sans lesquelles on ne peut pas produire un moteur. Alors on ne peut pas le construire, le rendre sûr. Il y a une grande différence.
Nous allons voir, Luciano Segreto, comment progressivement l'Italie et puis la Lombardie a été capable justement de produire ces très petites pièces de façon avec une certaine excellence et un certain savoir-faire qui est reconnu et qui fait aussi sa valeur ajoutée, même si ça ne lui permet pas, c'est ce que vous venez de nous dire, d'anticiper, on va dire, sur le très long terme, puisqu'elle ne produit pas ces fameux produits finis intégralement, on va dire. On a beaucoup parlé, Linda De Matteo, de l'automobile. Et bon, c'est vrai que c'est un secteur qui est particulièrement touché. La production de véhicules sur l'ensemble du territoire a marqué une baisse de 43% en 2024. Il y aurait environ 310 000 voitures qui seraient sorties des usines italiennes en 2024. C'est le niveau de 1957. Donc on comprend qu'on s'en préoccupe. Mais par ailleurs, il faut quand même dire qu'il y a presque 39% du PIB de la Lombardie qui provient d'activités dites diverses. Dans quelle mesure, finalement, on a aussi parlé du textile, mais dans quelle mesure cette crise-là, elle touche l'intégralité de la Lombardie ? Est-ce qu'il y a des secteurs, et je pense notamment aux services, qui, de fait, participent à cette diversité et permettent, quelque part, de ne pas plonger intégralement la région dans la crise ?
Oui, il y a d'autres secteurs qui sont stables ou qui sont en développement. Le bâtiment, par exemple, qui est très important pour la Lombardie, est relativement stable. Le secteur du tourisme est en pleine expansion. Et on n'y pense pas nécessairement, mais aujourd'hui, Milan est quand même la ville la plus visitée en Italie. Bergame a été, en 2023, la capitale culturelle de l'Europe. Elle a attiré un flux de touristes impressionnant. La zone du lac de Garde est la zone la plus visitée d'Italie. Donc, il y a un flux de touristes que la région a du mal aujourd'hui à gérer. En fait, on parle même de surtourisme en Lombardie et ça pose des questions également environnementales, mais il ne faut pas oublier que le paysage lombard est tout à fait exceptionnel. Donc, il y a une partie de la région qui est composée par les Alpes et donc on a ces trois grands lacs alpins qui sont uniques au monde, le lac Majeur, le lac de Côme et le lac de Garde. Donc, ça attire énormément de visiteurs. Et ça, c'est un point de force aujourd'hui pour la région.
Alors, et peut-être que ça nous permet de faire un dernier point géographique, Andrea Goldstein. Il faut dire que le territoire lombard n'est pas homogène d'un point de vue économique. Il faut en prendre en compte la spécialisation propre à chaque province. Je ne sais pas si nos auditrices, nos auditeurs français le savent, mais voilà, il y a beaucoup de provinces au sein de la Lombardie. On peut citer Brescia, on peut citer Bergame, Milan, Pavie, Côme ou Mantoue. Il y en a six autres encore. Est-ce qu'on peut dire que finalement, chaque petit territoire a sa spécialité à l'intérieur de la région ?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut souligner que la Lombardie a une population de 8 millions d'habitants. Donc, c'est déjà une région assez grande par rapport, par exemple, à l'Autriche ou à la Suisse, ou voire à certains pays de l'Europe de l'Est. Et en termes de géographie économique, on a, comme l'évoquait Linda, il y a toute une partie au nord de Milan qui est spécialisée dans le tourisme. Et donc, que ce soit de lac, que ce soit de la montagne. D'ailleurs, Milan et Cortina vont accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Cela va aussi de redorer l'image des montagnes, région. De la région en général. De la région et ses producteurs, par exemple, dans l'équipement pour les remontées mécaniques, par exemple. C'est un secteur dans lequel, qui est une niche, bien sûr, mais c'est une niche dans laquelle la niche de la Lombardie est très importante. Il y a en partie vers l'est de la Lombardie, donc les départements de la province de Bergame et de Brescia, qui sont très spécialisés dans la métallurgie et dans la mécanique. D'ailleurs, par exemple, Brescia, dans la province de Brescia, il y a Beretta, l'entreprise productrice d'armement, qui est très, 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 très forte et d'ailleurs très tournée vers le marché américain pour des raisons qui sont assez évidentes. Et il y a la partie sud de la région qui va vers dans l'Emilia-Romagne, qui par contre est très spécialisée dans l'agroalimentaire. Par exemple, très peu d'auditeurs, j'imagine, connaissent le cas de la province de Mantoue, dans laquelle il y a la communauté sikh la plus importante en Europe. D'ailleurs, il y a les temples sikh le plus important en Europe, parce que tout pour l'industrie de la... pour l'agroalimentaire, c'est très important d'avoir ces Indiens dans la région. Mais il y a aussi, par exemple, au nord, je termine, il y a la province de Varese qui est spécialisée dans l'aérospatiale. Donc, d'ailleurs, c'est quand Auguste, il y a 30 ans, avait acheté Westland dans les hélicoptères au Royaume-Uni. C'était l'un des premiers et l'un des derniers aussi cas d'acquisition et de fusion entre des entreprises dans le domaine de la défense en Europe. Donc, c'est déjà un exemple très intéressant à voir dans une dimension ultérieure de la construction de l'Europe de la défense.
Donc on le voit, un territoire très diversifié en termes de tissu industriel et économique. Alors on va voir comment s'est mis en place l'intégralité de ce tissu et comment la Lombardie a suivi quelque part aussi le parcours plus global de l'économie italienne depuis le début du XXe siècle. On en parle juste après Lombardia, la Lombardie donc qui est l'objet de ce titre du groupe Mercanti di Liquore.
Atterrati su in Brianza come un 747, siamo cresciuti di nascosto come le castagne matte. La regina Teodolinda ci faceva l'occhiolino, ma noi irriconoscenti non le abbiamo fatto l'inchino. Imparammo la chitarra per avere un'occasione, per paura di sentirci come un mobile Alissone. Poi ci siamo travestiti da soldati di Ventura per cercare di scalare questa ripida pianura. Lombardia, com'è facile volerti male, i sorrisi non ne fai. E ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare, pur essendo in Lombardia.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Nous retraçons aujourd'hui les évolutions de l'économie lombarde à la pointe de l'industrie italienne, aujourd'hui menacée par la crise que connaît entre autres son premier partenaire commercial, l'Allemagne. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Luciano Segreto, de l'anthropologue Linda De Matteo et de l'économiste Andrea Goldstein. Vous êtes tous les trois avec nous et pour la plupart en studio. Alors on l'a compris, il y a une configuration géographique et économique très spécifique aussi à la Lombardie, qui est divisée en partie grâce à une spécialisation, on va dire, liée aux provinces. Or cette configuration alimente l'idée d'une capacité d'adaptation de l'industrie italienne, dont la Lombardie est de fait la représentante, ce dont ne semblait pas douter Gian Maria Grospietro, le président de la Banque italienne, le 15 avril 2024 dernier.
Les districts se portent très bien. Ils sont à la pointe de l'industrie manufacturière italienne, tant en termes de croissance de la productivité qu'en termes de croissance des entreprises, donc du chiffre d'affaires. Et surtout, ils sont à l'avant-garde du changement structurel, donc plus d'investissements dans l'innovation, plus de brevets, des exportations plus diversifiées par rapport à, par exemple, l'industrie allemande. donc moins de possibilités d'être frappé par l'effondrement ou la mauvaise performance de certains marchés, mais aussi des lignes d'approvisionnement, donc des chaînes de valeur plus courtes grâce à la présence du district, et donc moins de vulnérabilité aux difficultés de transport ou aux mauvaises performances des secteurs de production des fournisseurs.
Linda De Matteo, il faut nous expliquer quels sont ces districts dont on entendait parler à l'instant, à quoi correspond cette réalité ?
Alors, les districts, ce sont des concentrations industrielles dans certaines zones de la région, qui peuvent être des zones assez périphériques en fait, parce que ces districts se sont développés très très tôt, à la fin du 19e siècle en fait, autour de familles industrielles, souvent des familles aristocrates qui ont commencé à développer des activités industrielles. Donc moi je me suis penchée particulièrement sur le textile, donc dans la Val Seriana, qui est un district à la fois mécanique et textile, on a par exemple la famille Albini qui dès le 19e siècle développe une production textile qui existe encore. Donc on parle aujourd'hui de familles industrielles qui existent depuis 13, 14 générations, donc c'est assez impressionnant. La question de la transition cisgénérationnelle est tout un problème pour les entreprises italiennes, parce que ça reste fondamentalement des entreprises familiales, donc il y a des structures aussi qui sont bien spécifiques.
Et pourquoi ça pose problème, Linda De Matteo ?
C'est parfois difficile de trouver un héritier. Donc quand l'entreprise est vendue, c'est toujours un crève-cœur pour ces familles.
Donc on le comprend, il y a quasiment une très longue lignée qui est plutôt réservée à une élite tout de même qui a de fait une forte présence, un ancrage à la fois territorial et économique très fort dans cette région. Luciano Segreto, d'où vient finalement cette économie industrielle réservée à une forme d'élite finalement? Pourquoi ça s'est développé par le haut finalement cette industrie lombarde?
Bon, parce que la Lombardie, disons, si on va vraiment à l'arrière dans l'histoire économique italienne, industrielle, économique italienne, a été une région de frontières dans tous les sens. Disons, la proximité relative avec la France, la Suisse, l'Allemagne, je parle du 19e siècle avant tout, la Lombardie ainsi que le Piémont ont été la destination d'entrepreneurs soit suisses, soit allemands, qui sont descendus vers le sud, vers ce que pour eux était le sud et que pour nous en Italie c'est le nord. et dans ces régions, on trouvait des conditions idéales pour commencer une activité industrielle, surtout dans le secteur textile, dans tous les composantes, soit la laine, soit le coton. Et ça a été l'origine plus loin. Après, avec ça, c'était l'industrie mécanique qui, et au fur et à mesure que l'industrie en général manufacturière se développait, a été la caractéristique plus importante de la région. De l'autre côté, la Lombardie, et c'est aussi grâce aussi au lien avec le Polytechnico de Milan, l'école polytechnique, les universités, a été aussi la région, même dans le passé, des plus grandes technologies. La technologie de pointe entre 19e et 20e siècle était l'industrie électromécanique et l'industrie électrique. La plus grande entreprise du plan de vue économique, financier, jusqu'aux années 50 a été une industrie électrique, la Edison de Milan, qui existe encore aujourd'hui et qui est contrôlée par EDF depuis l'année 2001-2002.
Ce qui est intéressant, donc, Luciano Segreto, je me permets de vous interrompre, je suis absolument désolée, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui concerne l'électricité, mais aussi le caoutchouc, l'industrie automobile, donc ce qui correspondrait, on va dire, en termes de secteur, plutôt à la seconde révolution industrielle, tout cela, on pourrait se dire, tout de même, l'Italie n'est pas extrêmement riche en matières premières pour construire tout cela. Cet essor-là, et notamment autour de ces secteurs-là, est-ce qu'il est porté, on a parlé de très riches aristocrates, est-ce qu'il est porté aussi par l'État dans une certaine mesure?
Donc, si je peux dire, disons, de manière très synthétique, la Lombardie a été, en général, la région dans laquelle l'intervention publique, en termes d'intervention directe de l'État qui contrôle des entreprises, était bien inférieure qu'à d'autres régions italiennes. Parce que l'industrie lourde a été, par exemple, la métallurgie, même la sidérurgie, ont été des industries privées en Lombardie et pas publiques. L'industrie publique en Italie commence dans les années 30. C'est à peu près 100 ans à partir des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc ça est une caractéristique de longue période. La Lombardie, d'une certaine manière, on peut dire qu'il a toujours représenté la dimension de l'initiative privée, des entrepreneurs plus avancés sur le plan, culturel, intellectuel, technologique. Pensez à Pirelli, qui est depuis 140 ans une des entreprises plus importantes et plus avancées sur le plan technologique depuis une dizaine d'années, il faut l'ajouter, contrôlée par les Chinois et non plus par les capitaux et par les entreprises, par des familles italiennes. Et la famille Pirelli, depuis le début des années 90, n'est plus à la tête et avait été substituée par M. Tronchetti Provera, qui reste le président de la société, mais le capital est chinois. Mais pour dire qu'il y a eu, dans plusieurs secteurs avancés, relativement avancés, une caractéristique typique de l'industrie de Milan, de la manufacture de Milan, qui a été quelque chose de remarquable et de différent par rapport à d'autres régions, même du Nord, hein, dans le sens, comme je disais avant, la présence de l'État était relativement minoritaire. Il y a quelques exemples, par exemple Alfa Romeo, qui a été contrôlé par l'État jusqu'au début des années 80, quand Fiat l'a racheté pour une lire, ou non.
La lire symbolique, on connaît l'euro symbolique, là c'était la lire symbolique à cette époque-là. Linda De Matteo, je fais un sacré saut dans le temps, mais il faut quand même nous aider à comprendre ce paradoxe. On parle, donc on l'a bien compris, d'une intervention de l'État relativement minimale, même si elle est tout de même, il est tout de même présent. On parle de ces grandes familles aristocratiques, on a l'impression tout de même que tout cela se construit dans une logique d'oligopole, avec des très grosses entreprises qui maîtrisent, on va dire, un territoire. Or aujourd'hui, et on l'a dit en début d'émission, ce qui fait aussi la force de l'industrie lombarde, c'est tout ce tissu de petites et moyennes entreprises. Il y a là une forme de paradoxe. Comment on passe de ce modèle de la très grande entreprise familiale, aristocratique, etc., à ce tissu beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus libre aussi, de taille beaucoup plus réduite?
En fait, dans les districts, on a une décomposition de la chaîne de production. Chaque petite unité de production, qui est gérée souvent par une famille, qui va fabriquer des pièces ou qui va prendre en charge une partie de la chaîne de production, en fait, et vendre leur produit qui n'est pas totalement fini à une entreprise qui est plus importante. Et donc, ces districts, en fait, ce sont une chaîne de production. Et à un moment donné, à partir du moment où ces industries deviennent moins compétitives, les distretti deviennent des dislargi, c'est-à-dire que certaines unités de production vont être délocalisées vers l'Afrique du Nord ou vers l'Asie, de manière à qu'on puisse maintenir des prix relativement bas pour rester compétitif sur le marché européen. Donc typiquement, moi j'ai fait des observations en Roumanie, donc dans le nord-ouest de la Roumanie, où des industriels italiens avaient délocalisé un certain nombre de leurs activités productives. Ça leur permettait de rester compétitifs. Donc on passe ainsi du distretti au dislarghi.
Ce qui est extrêmement intéressant, Luciano Segreto, dans ce jeu d'augmentation puis de réduction et à travers ce prisme du district, c'est que finalement on comprend, et que notamment via l'intégration européenne, il y a une forme de délocalisation qui est possible pour les entreprises italiennes, alors que pendant très longtemps, le tissu industriel italien, et en particulier lombard, était vu comme une opportunité, et vous l'avez dit, notamment pour les Suisses, les Allemands, parfois les Anglais, comme une opportunité de eux délocaliser pour profiter aussi d'une main-d'œuvre moins chère à une certaine époque. Il y a une forme de retournement de situation qui s'opère là.
Oui, mais là, c'était vraiment un temps très loin par rapport à aujourd'hui. Donc, ce type de dynamique, il faut le revoir un peu à la lumière des tendances plus récentes. Effectivement, la capacité de penser dans une dimension globale est une des caractéristiques, disons, structurelles de l'industrie manufacturière, en particulier lombarde. Cette capacité, c'est-à-dire de penser aux relations internationales, ça a été, un élément qui caractérisait, je dirais, la vision culturelle, je dirais, des entrepreneurs italiens de cette région par rapport à d'autres. Le fait d'être dans un croisement économique entre le nord et le sud de l'Europe et la Méditerranée, et un centre qui, dans les siècles, Milan, dans le siècle, a été un centre fondamental dans ces relations nord-sud, sur lesquelles se sont développées après les caractéristiques typiques de l'industrie entre le 19e et le 20e siècle, en plus les structures du système d'éducation au troisième niveau, les universités, les polytechniques, tout ça compose une type de société qui est extrêmement ouverte, mentalement ouverte à la nouveauté, à l'étranger. Donc c'est ça qui est un élément, je pense, aussi sur le plan sociologique, culturel, a une importance qui fait comprendre la spécificité, l'originalité de cette région par rapport aux autres régions industrielles, comme le Piémont, par exemple, beaucoup plus fermées, beaucoup plus capables de grandir tout seul, sans cette dimension naturellement international qui a toujours eu la Lombardie.
Et du reste, la Lombardie attire beaucoup, et notamment dans les années 50-60, vous parliez de cette ouverture-là qui attire et qui creuse potentiellement un déséquilibre aussi entre Italie du Nord et Italie du Sud. Cette préoccupation-là de l'arrivée aussi de certains mouvements migratoires vers le Nord qui ne sont pas toujours extrêmement bien encadrés par l'État, là encore, est une préoccupation qui est au cœur du film Rocco et ses frères de Visconti, un film sorti en 1960. Où il est question de l'arrivée à Milan de jeunes travailleurs et de leurs familles. Ce sont Rocco et ses frères, de fait, qui viennent, eux, du Basilicaté.
Le mauvais cas, c'est ma mère et mes frères qui m'y ont mis. Ils nous sont tombés dessus comme une bourrasque. Et puis, il y a eu une empoignade avec mes futurs beaux-parents. Ça fait que maintenant, j'ai plus ni logement, ni fiancé. Ce qui me reste, c'est les ennuis.
Parce que pour toi, le logement et la fiancée, ça revient au même, hein.
Ça vous amuse, vous? Oh. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, avec toute cette famille sur les bras? Où je vais les mettre? Où je vais trouver les sous pour leur payer de quoi se loger? Pour ce soir, ça va, je les ai casés à droite et à gauche. Mais demain, comment je vais faire pour me débrouiller?
Oh, si c'est que ça, faut pas te rendre malade. Mais mon gars, des logements, t'en trouves tant que t'en veux, c'est moi qui te le dis. Il en pousse une chaque jour de maison. Ça sort comme des champignons ici.
Bien sûr, en payant, on trouve.
Mais tu y es pas, écoute-moi plutôt. Fais comme toutes les familles qui ont débarqué du Sud. Tu veux que je te dise?
J'écoute.
Tu prends un appartement dans un immeuble ouvrier, hein? Tu commences par payer pendant les premiers 2 mois. Et après, tu payes plus rien.
Comment ça?
Écoute-moi donc. Au bout d'un mois environ, on vient de flanquer dehors.
Bah alors?
Mais laisse-moi dire, on vous reloge dans un centre municipal où on ne paye rien. Et t'es éclairé gratuitement, échauffé, etc., etc. La commune de Milan ne laisse coucher personne à la belle étoile, croisant mon expérience.
Mais on pourrait pas y aller directement?
Oh non! Faut d'abord qu'on vous expulse.
Ah, voilà.
Eh oui! C'est là le secret! Tout le secret! T'as compris? Tu vois, c'est simple comme bonjour!
Luciano Segreto, on pourrait se dire qu'entre les mouvements de population qui sont de fait liés aussi à l'essor économique de la Lombardie et à plus forte raison de Milan, plus le développement des districts qui, on l'a bien compris, implique une forme de réorganisation géographique, on l'a dit, en périphérie des villes, mais tout de même cela implique aussi de modifier le paysage et de fait l'habitat des populations. On pourrait dire que tous ces mouvements conjugués-là provoquent de très forts bouleversements, potentiellement une forme de contestation. Est-ce que ça a été le cas en Lombardie?
Bon, ça a été le cas dans le sens du cette énorme immigration du sud, du centre-sud, vers, en général, les régions du nord, surtout Milan et Turin, est un phénomène qui s'est développé, explosé, je dirais, entre la fin des années 50 et toutes les années 60. Le problème vrai a été que cette demande de travailleurs n'a pas été accompagnée par une initiative de l'État pour garantir des niveaux de vie bons. Bon dans le sens que c'est pas suffisant d'avoir une place de travail. Comme disait bien dans le film, il faut avoir un lieu où dormir, ou mettre une famille. Et ça, ça a été l'absence de l'État, l'absence d'initiative, de politique pour les pour construire des maisons
dignes,
disons, populaires, en ligne avec la grande demande. Donc tout le marché de l'immobilier est resté un marché largement privé dans lequel les industries n'avaient aucune capacité, ni volonté, surtout, ni volonté, je souligne, d'intervenir. C'est-à-dire, les grandes entreprises privées du Nord, à partir de la Fiat et des autres de Lombardie, ont fait appel à cette nouvelle main-d'œuvre nécessaire. Mais se sont absolument désintéressés de tous les aspects sociaux qui étaient liés. Et tout ça est tombé sur la tête des administrations publiques, des villes, de petites, grandes villes, qui ont dû faire face à cette, comment dire, avalanche de gens qui arrivaient du Sud avec l'idée de trouver un travail. Mais trouver un travail, c'était pas la seule chose. Il fallait trouver aussi quelque chose d'autre. C'est pour ça que les problèmes à l'époque ont été surtout à ce niveau. Comment dire, la dimension sociale, la dimension
des conditions de vie, des conditions de vie plus générales.
Linda, mais en termes de, je peux terminer.
Allez-y.
En termes de, comment dire, de se mettre en ligne, en de compréhension, d'intégration, tout ça était relativement plus facile, malgré le choc initial, mais tout ça était relativement plus facile. La Lombardie, malgré tout, elle se moquait, mais de manière sympathique. Peut-être vous pouvez mettre quelques petites chansons de l'époque sur les gens qui disent « Oh mia bella Madonnina », la chanson plus fameuse de Milan, qui dit tout le monde, si tu vas pas à Naples, tu meurs, mais à la fin, ils viennent tous à Milan pour travailler, pour vivre.
Donc on voit qu'effectivement, c'est ancré dans les imaginaires. Linda De Matteo, dans les années 90, c'est la Ligue, alors Ligue du Nord, qui est fondée en 1989 et qui arrive en 92 au pouvoir. Je rappelle quand même que la Ligue du Nord, c'est le résultat de la fusion de deux mouvements régionaux, la Ligue Lombarde et la Ligue Vénète. Comment expliquer l'essor de ce mouvement politique précisément dans cette région et dans ce contexte-là au début des années 90?
Alors, la Ligue du Nord va émerger très fortement en 92. En fait, il y a deux raisons principales. En fait, il y a un changement politique majeur à ce moment-là en Europe. C'est la chute du mur de Berlin, l'effondrement du parti communisme. Et donc, il va y avoir une recomposition totale du système partisan italien. Et ensuite, un énorme scandale politico-financier va frapper Milan, Manipulite. Donc les magistrats vont révéler un système de corruption dans lequel sont impliqués les socialistes et les démocrates chrétiens. Donc ça va frapper l'entière classe politique lombarde à ce moment-là. Et la Ligue va émerger parce qu'ils vont faire campagne en fait sur la moralisation de la vie politique italienne, milanaise. Ils vont renvoyer la culpabilité sur Rome la voleuse, alors qu'au départ c'était quand même les élites lombardes qui étaient impliquées dans ces processus de corruption. Et donc ça va leur permettre de s'insérer dans les institutions locales. Et aujourd'hui, la Ligue du Nord est au pouvoir en Lombardie depuis 30 ans, quasiment.
Oui, ce sont tout début des années 90. Est-ce que, peut-être pour clore cette émission, Andrea Goldstein, on l'a dit, et vous avez cité notamment l'exemple de Beretta, mais le patron de Beretta, qui est aussi le dirigeant de la branche locale de la Confindustria dans cette région-là, disait que les années 80-90 avaient été effectivement des années très dures, puisqu'il y a eu cette compétition mondiale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Lombardie ne s'en sort pas si mal, finalement, vu tous les épisodes qu'elle a traversés? Et vous avez 20 secondes pour me répondre.
Oui, bien sûr, surtout parce qu'on a évoqué que partiellement l'essor de services, ça c'est très important parce que ça représente quand même la partie principale de l'économie. On a dans la région Lombardie deux des six principales banques européennes, par exemple, ont leur siège à Milan. Et il y a aussi une ouverture vers le monde qui caractérise depuis toujours, comme l'a évoqué Luciano Segreto, mais qui encore, c'est vrai, si on voit au mois d'avril, à Milan pour le Salon del Mobile, on peut voir toutes les capacités d'attractivité de la région.
Et bien voilà, un message d'espoir pour cette région. Voilà, exactement. Merci beaucoup à tous les trois, Linda De Matteo, Andrea Goldstein et Luciano Segreto d'avoir participé à cette émission.